Vous écoutez
RMC.
RMC. J'ai écouté Kevin De Bruyne en zone mixte.
Ah ouais, en mode vénère après le match, après l'élimination.
En mode vénère, il a repassé tout le monde pour l'hiver.
En tant que boulimique de foot, moi j'ai besoin, je vis foot, je vibre en foot, je pense qu'on m'ouvre les veines, il y a des ballons qui sortent.
20h-22h, Génération After.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue sur RMC. On est ensemble pendant deux heures juste après l'after foot avec Gilbert Bribois. Ce soir au casting, Elton Mokolo, bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Et un homme qui ne ment pas. Effectivement, je pense que si on le découpe, vous voyez, si on fait une autopsie, il n'y a que des ballons qui sortent de son corps parce que il vit ballon, il mange ballon. C'est incroyable de le voir dans la rédaction. Le ballon, c'est son souffle, c'est son air, c'est sa vie. David, bonsoir.
Bonsoir Karine, quelle belle présentation, quel bel hommage. J'en suis ravi.
Non mais franchement, monsieur Busson, mais sidéré, vous êtes incroyable. Et en plus, vous êtes mais tellement passionné. Non mais parce que franchement, ce qu'il a dit là, il y a que du ballon en lui, c'est incroyable. Il est comme un gosse dans un marchand de bonbons.
Absolument.
C'est magnifique.
Absolument.
C'est bien résumé, ouais.
Donc, franchement, il y a quelques minutes, il nous parlait de Lille. Mais j'étais à deux doigts d'être passionné par la saison lilloise. Ouais. Tellement il te capte. C'est beau. Écoute, j'espère qu'il nous captera aussi à 22h, parce que le grand Gilbert Bribois vient de faire son entrée dans le studio et il va nous teaser les deux heures d'After Foot. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Grosse page Mercato tout à l'heure avec Fabrice Hawkins, le faucon, qui est sur tous les dossiers et qui donc sera avec nous pour faire le point un peu sur tous les clubs, voilà les gros dossiers du moment, quoi. Ce qui reste à 48 heures de la Ligue 1, justement à 48 heures de la Ligue 1, on va parler de l'OM comme vous tout à l'heure. Kevin Diaz a un avis sur Bruno Genesio. Ah bon, c'est l'avis de l'été, hein. C'est pas non plus le truc de ouf. Hein. C'est
un peu comme le tube de l'été,
c'est la macarena. En gros, il aime bien Genesio. Quoi.
Ah oui. Il renverse pas la table là, avec cette avis.
C'est la lambada des avis. Quoi.
Voilà, ouais. C'est un peu ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore au programme? Bah, ouais, quand même, cette histoire de PSG Rennes, là, faut qu'on rentre un peu dans les détails.
Ah oui.
On va faire du jardinage. Et puis, notre petit point quotidien sur les affaires de la Fédé et de la FIFA qui évoluent avec Philippe Diallo, qui semble un peu contesté là, en interne, dans le foot français. On fera le point sur tout ça tout à l'heure. Donc, deux heures d'after spécial Ligue 1 à 48 heures de la reprise.
Magnifique Gilbert, rendez-vous à 22h donc, Gilbert Bribois et toute sa bande et nous ensemble jusqu'à 22h pour Génération After, c'est parti. Messieurs, le programme du soir, évidemment, on va revenir sur le match entre le Fenerbahçe et Lyon. Vous l'avez vécu en intégralité hier soir sur RMC. Bon résultat ou gros regret, on vous pose la question, on vous attend également au 32-16. On va parler également de l'avis tranché de monsieur David Glusman qui concerne donc Lille, hein, je vous l'ai dit. Il nous a fait un peu une répétition dans la rédaction il y a quelques minutes. On parlera également de Francaise, parce que du côté de Rennes, alors on ne dit pas que c'est un loft, mais on resserre le groupe. Ça s'appelle un loft en fait. Les infos au mercato du jour et puis Gilbert en a parlé. Alors, vous avez soi-disant le meilleur jardinier du monde, il vous a coûté une tonne. Eh bien, qu'est-ce qui se passe, Mr Calderwood? Eh bien, il découvre qu'il y a eu une canicule cet été, donc il y a eu des champignons et que la pelouse est impraticable pour le PSG Rennes qui devait avoir lieu dimanche. Alors, c'est quand même assez lunaire et donc finalement le match est inversé et ça sera Rennes qui recevra donc les Parisiens. Il faut s'organiser et puis on vous dira également le podium des pelouses de la saison passée parce qu'on a été assez surpris. On a regardé ça avec Elton. Le PSG a le meilleur. Ben le PSG n'est pas numéro 1 et ça c'est une énorme surprise. Le PSG n'est même pas sur le podium. On en parle dans quelques minutes. On parlera également d'une nouvelle génération de 9 cette saison et puis quel est le promu le mieux armé. Alors vous savez qu'il y a Le Mans qui fait un petit peu rêver parce qu'il y a des gros noms notamment au niveau de l'Axe Yonaria. Il y a une très belle saison évidemment et puis il y a Troyes qui fait partie du City Group et qui a été sacré champion de Ligue 2. On en parle évidemment. On vous attend également en fin d'émission. C'est une libre antenne 32-16, WhatsApp 06-12-424-424 pour nous parler de la rentrée de votre club préféré parce que ce week-end, la Ligue 1 reprend. Messieurs, hier, il y avait un bon match de foot déjà entre le Fenerbahçe et Lyon. On rappelle, deux matchs pour retrouver la Ligue des Champions. Un step que les Lyonnais n'ont plus vécu depuis 2020. Au final, un score de parité, un but partout. Deux buts marqués par des recrues. D'un côté, on a eu Openda qui avait ouvert le score juste en première mi-temps avec un très joli but de la part du Belge à la 40e. Et puis juste après le retour des vestiaires, les Lyonnais pas très concentrés. Greenwood, magnifique, la spéciale, la recrue également, qui a égalisé à la 47e. Messieurs, on est un petit peu partagé. Alors, est-ce un bon résultat ou faut-il avoir des gros regrets avant le match retour mercredi?
Je dirais quand même bon résultat, parce que gros regret, ça voudrait dire que l'Olympique Lyonnais a eu plusieurs occasions de remporter ce match. Alors oui, c'était à l'extérieur et oui, t'as ouvert le score. Mais moi, je reste sur bon résultat qu'il faudra convertir sur match retour, parce que là, on est à la mi-temps de la double confrontation. J'ai pas envie d'être dans un optimisme démesuré quand on parle de l'Olympique Lyonnais, parce que sur les deux dernières années, ils m'ont appris à être modéré en termes d'analyse, parce que sur la logique de double confrontation, ils arrivent pas souvent à l'a terminé. Donc par rapport à ça, je te dirais davantage bon résultat, d'autant plus que là, Fenerbahçe n'est pas forcément la meilleure équipe à l'extérieur.
Alors, on rappelle quand même que Lyon n'a jamais été battu par le Fenerbahçe. On en est dorénavant à 6 matchs. Il y a 4 matchs nuls, 4 victoires de la part de Lyon et 2 matchs nuls en comptant le match de hier. Et que les Lyonnais, c'est vrai que globalement, ils nous ont fait plutôt forte impression. On les a sentis maîtres du match, maîtres du jeu.
Je pense que tactiquement, c'est une des meilleures partitions de Fonseca depuis très longtemps. Il y avait une application des consignes, une discipline dans le repli défensif, une discipline dans les sorties de balles, une opiniâtreté très rarement vue, une cohérence tout simplement très rarement vue sous Fonseca. Je pense que avec cette rencontre, il s'est complètement fait pardonner cette première rencontre complètement incohérente.
Alors c'est un pardon temporaire.
C'est un pardon temporaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le contenu. J'ai pas envie de me laisser non plus transporter en parlant de regrets, parce que autant je pense qu'avant la confrontation contre le Fenerbahçe, on diabolisait en lisant, en égrenant les noms qui composent cet effectif du Fenerbahçe, autant là, moi, j'ai pas trouvé le Fenerbahçe si défaillant que ça hier. Je trouve qu'ils ont eu par exemple un très gros premier quart d'heure, en se procurant notamment une énorme occasion par Moriki, bien aidé par la sortie temporaire de Niakate. Je trouve qu'ils ont fait globalement une bonne deuxième mi-temps, et je suis pas forcément certain que leur Ismaël Kartal et leur entraîneur se trompera toutes les semaines de formation. Clairement, Talisca, hors poste, qui avait marqué 5 buts en 5 matchs, le décalé en numéro 10 sous Moureki, c'était pas forcément...
Ça, j'ai pas compris.
C'était pas forcément l'idée de l'année. Je pense que Dorgelès Néné a marqué énormément de points lors de son entrée. Ça a été un véritable...
Il a touché les montants.
Il a touché le montant. Donc voilà, rassuré par le résultat, pas forcément, parce que comme tu l'as dit, il y aura une maîtrise émotionnelle aussi à avoir. Mais dans le contenu, oui, franchement, très rassuré.
Le contenu, je suis un peu plus nuancé. La première période, j'ai vu une équipe appliquée. J'ai vu une équipe qui s'appuyait notamment sur ce qu'elle faisait depuis un an et demi sous Paulo Fonseca. À partir du 1 partout, il y a quand même eu moins de maîtrise au milieu de terrain. Sûrement qu'il y a eu une fatigue qui était assez avancée. Quand même, tu as eu des occasions, tu as tapé le poteau, Openda s'est mis en situation, tu as eu la frappe de Tolisso. Mais j'ai quand même encore une fois envie de rester positif sur la réalité du contenu et de la logique de rapport de force, parce que le rapport de force face à Fenerbahçe, il y a deux écoles qui s'affrontent. L'école qui est un peu plus structurée, celle de Fonseca, celle de Olympique Lyonnais, et l'école beaucoup plus d'initiative individuelle, beaucoup plus axée sur le talent, qui est celle de Fenerbahçe.
Mais moi, je trouve qu'ils ont bien réagi en fait à l'égalisation. Je te trouve un peu dur avec la deuxième mi-temps. Au contraire, j'avais peur qu'après avoir encaissé un but si tôt dans la deuxième mi-temps, ils perdent un peu les pédales, et je trouve que c'est peut-être la période après le but, c'est peut-être la meilleure période de la deuxième mi-temps de l'Olympique Lyonnais, où t'as notamment eu le poteau d'Openda, t'as eu plusieurs occasions, peut-être pas dangereuses, mais plusieurs situations. Je les ai trouvées justement dans la gestion émotionnelle de la rencontre, dans un contexte difficile, assez mature finalement en fait cette Olympique Lyonnais, là où j'aurais attendu beaucoup plus de maturité des adversaires.
Sur la gestion émotionnelle, oui, mais sur la maîtrise du ballon, sur cette capacité à avancer dans le coin adverse, à toucher tes ailiers, c'était c'était moins impactant en seconde période, que ce soit avec Fofana, que ce soit avec Nouama. Donc pour moi, c'est une marge de progression.
Un message de Mathieu, je suis d'accord avec lui, sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, qui dit: Fonseca ne pourrait être jugé que si Lyon passe au match retour, rassurant avant le retour. Mais restons nuancés, parce qu'effectivement, David, si sur le match retour, par exemple, Fonseca, il blinde la victoire 1-0, et finalement il y a l'égalisation et un mauvais scénario, ou s'il fait des surprises encore au niveau de la compo, là, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est bien, mais en fait, c'est juste normal. En fait, il a mis les joueurs à leur poste, il n'a pas fait de choix majeur lors du match aller, si ce n'est qu'on a vu qu'effectivement, Fofana, qui était peut-être partant, il était là en Turquie et il serait là aussi au match retour. Mais ça, c'est une question qui est globale, c'est-à-dire que c'est géré avec la direction en disant, écoute, ok, on met toutes les forces sur la pelouse et après on verra pour le mercato.
Je pense sincèrement que moi, sa piqûre de rappel, alors je peux me tromper, hein, parce qu'il m'a déjà surpris souvent négativement dans les grandes rencontres par le passé, mais je pense que sa piqûre de rappel, qui était finalement sans douleur et sans dommage au match aller contre le Sparta de Prague, a été bénéfique. Et je suis pas sûr qu'avec des enjeux, notamment financiers, aussi importants, il s'amuse à bricoler au match retour. Mais après, nous, on est là aussi pour juger la prestation d'hier. Moi, je l'ai trouvé très cohérent. Les Lyonnais très cohérents, très bien préparés aux forces adverses. Donc, on est obligé aussi de saluer quand le travail a été correctement fait.
Mais par exemple, je trouve que ce match nul et ce match qui est bon dans le contenu, je vois pas spécialement la patte Fonseca. C'est-à-dire qu'il a un changement qui a changé la physionomie du match. Il a fait du classique et ça a marché très bien. Je ne demande pas de faire des folies et d'avoir des idées dingues. Mais je veux dire, hier, finalement, ce qu'on a vu, c'est des joueurs qui étaient au niveau, qui ont été bons. Mais je veux dire, pour moi, c'est pas un match où tu dis, tiens, Fonseca, là, sur ce match-là, bravo à lui, c'est sa réussite, c'est son pas sa victoire,
mais Karine, pour moi c'est beaucoup plus par rapport à ce que fait
une bonne chose.
C'est beaucoup plus par rapport à ce que fait l'Olympique Lyonnais depuis janvier 2025 et l'arrivée de Fonseca. Moi j'ai vu un Lyon comme j'ai pu le voir sur d'autres grosses affiches, notamment sur une équipe appliquée qui avait la volonté de tenir le ballon principalement sur la première période. Et Fenerbahçe, hormis l'action de Mouriki et une autre action de Mason Greenwood en première période, il y a très peu de situations en faveur d'une équipe qui était censé arriver à domicile avec une équipe, une constellation de grands joueurs.
Et avec plus de rencontres de compétition aussi à son actif.
Et au final, le mérite, c'est que Greif, tu l'as très peu vu. Maintenant, c'est vrai que sur la seconde période, pour moi, c'était moins abouti. Mais après, je peux comprendre l'avis de l'auditeur, c'est qu'aujourd'hui, avec l'Olympique Lyonnais version Fonseca, on est vaccinés. Ils sont capables de faire un match aller qui est convaincant. Mais le match au retour à la maison avec 58 000 spectateurs qui t'attendent au tournant, ça c'est un peu plus compliqué parce que là on va pas se tromper. L'Olympique Lyonnais mercredi prochain, c'est le tournant de la saison, pas plus, pas moins, parce que là c'est t'as deux voies qui s'ouvrent, la voie Ligue des Champions, la voie Ligue Europa, avec des enseignements complètement différents.
Et au niveau financier, c'est pas la même chose.
Et aussi, même pas financier.
Pour évidemment l'engouement des supporters, on rappelle, ils ont plus la Ligue des Champions depuis 2020, donc ils espèrent un retour. T'as parlé de l'ambiance, franchement, les Lyonnais l'ont très bien géré hier, ouais. Alors que c'était incroyable. On entendait à peine parfois Edouard G et Corentin Roland en commentaire, tellement les Turcs faisaient du bruit. Et d'ailleurs, concernant le match retour, il y a un papier très intéressant d'Edouard G justement sur rmcsport.fr, je vous invite à y aller. Il y a près de 40 000 places qui ont déjà été vendues pour le match retour de mercredi, mais surtout, Lyon fait très attention pour que le scénario de 2017 face au Beşiktaş ne se reproduise pas. On rappelle qu'il y avait une majorité de supporters turcs dans le stade, ils s'étaient rués sur la billetterie et la billetterie du club avait été totalement débordée et en plus de ça, il y avait eu évidemment un chaos avec de nombreuses bagarres avant la rencontre. Jean-Michel Aulas s'était intervenu, etc. Donc là, Lyon essaye de tout bien faire pour que évidemment, Lyon joue réellement à domicile et qu'il y ait une majorité de supporters lyonnais et que la diaspora turque n'envahisse pas le stade pour un match ô combien important pour les deux clubs. Parce que du côté du Fener, on n'a plus joué la Ligue des Champions depuis 2009 et du côté de Lyon depuis 2020.
Mais tu sais que même financièrement, pour Fenerbahçe, Fenerbahçe publie annuellement des énormes pertes d'exploitation. Ils ont été sanctionnés par le gendarme financier de l'UEFA et donc c'est 50-60 millions de primes de participation à la nouvelle formule avec des champions. Je vais pas te dire qu'ils sont que ces 60 millions sont vitaux, mais ils sont aussi très importants pour le Fenerbahçe.
Antoine, supporter lyonnais au 32-16, est avec nous sur RMC. Bonsoir Antoine.
Salut, bonsoir à tous les
fans. Bonsoir Antoine.
Antoine, le match de hier, tu es satisfait? On va écouter d'ailleurs Openda dans quelques minutes. Est-ce que tu trouves que c'est un bon résultat ou tu es un peu frustré parce que tu avais l'impression que les Lyonnais maîtrisaient?
Non, honnêtement, je suis pas frustré. Je trouve que c'est un résultat. Alors, c'était cohérent. Je pense qu'on est tellement déçu entre guillemets de ce qu'a proposé Fenerbahçe, parce que quand on voit la compo et les noms, ça tend à prendre le feu de partout. En réalité, ça n'a pas été le cas, mais pour autant, ça reste une équipe qui, de par ses individualités, reste quand même dangereuse. Donc, on a simplement fait un match en maîtrise à l'extérieur avec des si. Enfin, on pourrait faire beaucoup de choses. Peut-être qu'en poussant un peu plus, on aurait pu prendre l'avantage, mais on a peut-être pu aussi s'exposer, perdre ce match-là. Donc pour moi, le résultat, il est complètement cohérent suite à un match cohérent. Après, au retour, on verra ce que ça donne. J'aime pas trop faire des pronostics. Je pense que ce sera bien avec le stade plein, etc. Mais Mais ça reste, même si on est déçu de faire un match, pour moi, c'est une équipe qui, bah, de par ses individualités, nous demandera de nous mettre.
Moi, c'est même pas les individualités qui m'ont déçu, c'est le collectif. Parce qu'au final, on dit oui, mais Fenerbahçe, l'effectif a été chamboulé. Mais si je me trompe pas, il y avait que trois nouveaux joueurs hier, en fait, qui ont débuté pour le Fenerbahçe. Ake, Muriqi et Greenwood. Ouais. C'est-à-dire que le reste de l'effectif, ouais, c'était un effectif qui était déjà présent l'année dernière. Donc moi, si la surprise, elle est vraiment là, dans le manque de repères collectifs.
Ouais, bien sûr.
Parce que le manque d'impact athlétique, bon, on pouvait plus ou moins le deviner. Ouais,
parce que là, par certains moments, le manque de pressing du
côté c'était incroyable.
Non, mais sincèrement, il y en a qui veulent plus courir. Il y en a qui veulent plus courir et ça facilitait le travail de l'Olympique Lyonnais sur la
ça a d'ailleurs profité à Tanner Tessman qui a fait une excellente rencontre hier et qui est vraiment favorisé quand il doit moins se sortir du pressing parce qu'il a pas forcément
Pour le coup, c'était pas le match de Prague à l'aller où il venait te chercher au milieu de terrain.
Messieurs, je vous propose d'écouter Openda. On le sait, depuis qu'il est arrivé, il est intéressant. Il n'avait pas encore marqué la recrue belge.
Eh
bien, c'est fait. Il est très bon. Il est bon. En tout cas, il pèse.
Il est très bon, carré.
Très bon.
Non, il est très, très bon.
Il est important et il pèse sur le jeu lyonnais et il fait beaucoup de bien. Très bon, c'est quoi ?
Karine, on fait le conseil de classe de l'Olympique lyonnais. Celui qui a les félicitations, celui qui est major du mois d'août, il s'appelle Openda.
Donc tu lui mets quoi ? 8 sur 10 ?
Je lui mets 8 sur 10.
D'accord. Antoine, est-ce que tu es objectif ? Pour toi, c'est très, très bon ou c'est des débuts réussis, intéressants, ils se font bien dans le collectif ? Comment tu les jugerais ?
Réussi, très bon. Et très bonne surprise, mais pas uniquement par son but par exemple, mais c'est vraiment son activité. Je pense vraiment que c'est un profil qu'on n'a pas eu à Lyon depuis longtemps en neuf.
Moi j'ai fait une référence à Lisandro Lopez 2010.
Ah ben quand même.
Alors, modère
quand même, non ?
On parle d'une.
Dans le profil.
Un passage forcément très long. Oui, bien sûr, mais.
Dans le profil, pas les accomplissements, il vient d'arriver évidemment quand même.
C'est le genre de joueur où je suis content parce que je me dis qu'en fait, même les matchs où il ne marquera pas. Il fera forcément du bien.
C'est
un joueur vraiment. Ouais, il apporte. Il est intelligent dans ses déplacements. Il est fin techniquement.
Bah, regarde à Prague. Toutes les situations dangereuses ou quasiment viennent
c'est
de lui.
Et moi, c'est lui qui obtient le péno.
Moi, au-delà de son but, ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'action fin de corps quand il s'emmène le ballon pour sur sa frappe sur le poteau. Ouais. C'est-à-dire que j'avais oublié à quel point son jeu dos au but est efficient, à quel point il sait se servir de son corps et à quel point il est fort dans les petits espaces. Et ça m'a fait me demander, mais qu'est-ce qui est passé ? Comment il a été utilisé à la Juve avec la concurrence plus ou moins discutable qu'il y avait l'année dernière pour ne pas marquer du tout en 2026 et pour être aussi peu considéré ? Je comprends que le style de Spalletti ne soit pas forcément Openda compatible, mais quand même, on parle d'un joueur qui a complètement été mis de côté, alors que sur ces trois
points. C'est un contexte global, il arrive fin août, dernier jour du mercato, si je dis pas de bêtises, avec un autre entraîneur qui était Tudor. Ensuite, il y a Spalletti, il y a aussi la concurrence, tu devais mettre en avant les David, Vlahovic, etc., etc. Donc c'est un contexte global qui lui a pas suffi.
Tant mieux pour nous en tout cas parce qu'on l'a récupéré en Ligue 1 et je vous propose donc justement de l'écouter. Loïs Openda hier était en zone mixte au micro de Corentin Roland. On écoute le Belge.
On a fait un bon match, franchement, venir faire un match nul ici à Fenerbahçe, c'est pas facile du tout. On est venu le faire, je pense qu'on avait peut-être la possibilité d'aller chercher la victoire. Mais on va se contenter du match nul, qui est un très très bon résultat. C'est mieux ça que de perdre. Maintenant, on retourne à la maison, avec nos supporters, avec tout. Et voilà, maintenant c'est à nous de faire les choses correctement au match retour.
Loïs Openda qui dit « très bon résultat ».
Ça reste un match nul, il faut quand même pondérer.
Après, franchement, les voyants sont au vert. On rappelle les deux derniers clubs qui sont arrivés en phase de groupe de Ligue des Champions après des barrages. Lille, adversaire Fener. Et il y a quelques années, Monaco, adversaire Fenerbahçe. Donc, franchement, il y a...
Superstitieux, toi, tu crois, ces petits signes de dessin ?
Non, je suis pas superstitieuse dans la vie, mais ce sont des statistiques et évidentes. Là, les deux dernières fois.
C'est pour ça que moi je suis
très superstitieux. Moi, je suis très superstitieux.
Non, pas
t'es un vrai joueur de foot, toi. En fait.
Non, mais moi, je suis vraiment superstitieux.
C'est-à-dire.
Alors, je vais te raconter.
Donne-nous un exemple.
Je vais te raconter une dinguerie. C'est-à-dire que avant, je sortais au métro Notre-Dame-de-Lorette pour aller au boulot, et un jour, j'ai eu une.
Donc, attends, explique aux gens parce que tout le monde ne vit pas à Paris.
À Paris, maintenant, métro Notre-Dame-de-Lorette à partir.
Oui, d'accord. Et le métro, c'est pas qu'à Paris.
Génération After est une émission mondiale.
Non, mais c'est ligne 9, non, c'est ça?
C'est ligne 9.
Exactement. Donc, je sortais.
Ligne 9, ligne 12.
C'est le centre de Paris.
Je crois que c'est ligne 12.
Non, c'est ligne 12.
Le centre de Paris.
Donc, dans le centre de Paris, à deux pas de la rue des Martyrs. Donc,
non mais là c'est tellement parisien.
À deux pas de South Pigalle, comme on dit. Non mais donc je sortais, donc mes bureaux étaient, je finis mon histoire, j'essaie de la débuter. Mes bureaux étaient juste à côté et un jour j'ai eu une très bonne nouvelle professionnelle en sortant du métro et en empruntant une sortie de métro. Je n'ai plus jamais emprunté une autre sortie de métro. J'ai pris exactement la même porte, le même portique jusqu'à temps qu'on déménage de bureau. Et même quand j'y retourne pour des raisons personnelles, s'il y a des psychiatres, allez-y, diagnostiquez-moi. Il n'y a absolument aucun problème, des psychologues. Mais voilà, c'est à quel point je suis superstitieux.
Attends, il y a un escalator, donc tu le prends.
Non. En fait, tu veux la sortie. Ouais. Tu sais, il y a deux portes pour sortir.
Il préfère passer par les escaliers.
Mais est-ce que depuis, tu as eu d'autres bonnes nouvelles
hein, très bonne question d'Antoine.
J'ai pas une mauvaise nouvelle en tout cas, ça c'est sûr.
Ouais. Parce que dans l'autre sens, je pourrais le comprendre. Il y a une mauvaise nouvelle que tu apprends en sortant, tu dis je l'apprends plus. Ouais. Mais là, la proba, tu réagis.
Mais attends, Antoine, t'es en train de dire que je suis taré, c'est ça?
Non, je veux dire,
mais Antoine, dis-le, il y a aucun problème.
Non, mais c'est à quel point, je te dis, ça m'a tellement marqué que je me suis dit, écoute, je vais emprunter la même sortie parce qu'il m'est arrivé quelque chose de bien.
T'as emprunté la même sortie quand Gérard Lopez, il a quitté les Girondins de Bordeaux?
Non, mais par contre, je te jure que le jour où il va vraiment quitter, je reprends le métro Notre-Dame-de-Lorette et je prends cette sortie.
Magnifique. Écoute, on est ravis de cette petite anecdote.
Pas de souci.
Écoute, tu as le droit d'être superstitieux. Beaucoup de sportifs et de footballeurs sont superstitieux. En tout cas, c'était juste une information que je vous disais. Voilà, jamais 203, ça c'est un dicton. Et le Fener a plutôt réussi feux, à Lille et Monaco.
Sur tes feux, mon code de la route version foot, c'est feu orange pour moi. Pour l'instant, il y a un match nul. Match nul.
Non, mais c'est pas feu orange.
C'est un feu qui clignote en fait.
Non,
c'est un feu orange qui clignote.
Feu orange, tu dois t'arrêter.
Bah justement, pour l'instant, t'es dans l'attente.
Antoine, t'es peut-être pas moniteur auto-école, mais moi, je vois plus ça comme un feu orange qui clignote. Donc, ça veut dire que fais attention, mais tu peux passer quand même.
Oui, fais attention. Voilà. Fais attention, moi, je suis dans l'attente.
Pas tous en même temps. Antoine, on est feu vert là pour l'instant, on est quoi?
Non, on est feu. Après, comment donner un feu? Non, on est. Pour moi, je pense qu'on est légèrement favori parce que le contexte domicile, etc. Mais même si on est déçu de leur collectif, il y a des individualités. On l'a vu avec Greenwood. Greenwood, il fait un match.
Eh oui. On le voit pas du match avant son but.
Son but mauvais, est fabuleux. Match,
il perd des ballons un peu bizarres. Et il met un but extraordinaire.
Je crois qu'il touche entre son premier contrôle et sa frappe 6 ou 7 fois le ballon en un laps de temps ultra court. Son but est absolument fabuleux.
C'est sa spéciale.
La frappe.
Non, magnifique.
Moi, j'ai trouvé les gens durs avec Abner parce que certes, tu sais qu'il va repiquer, mais il le fait tellement bien et tellement rapidement avec tellement de touches de balle, tellement de variations.
Non, mais c'est comme Robben et Ribéry, tu savais toujours ce qu'ils faisaient et puis ça passait.
Exactement. Voilà. Oui.
Donc bon, il y a un moment, tu subis et tu dis bravo.
Ça, il vient de faire en plus, il fait la feinte juste avant. Devant ma télé, je me dis il va rentrer. Et au moment où il fait la feinte pour partir à droite, je me dis ah non, il rentre pas. Et en fait, il nous surprend.
Mais surtout qu'il a les deux pieds, donc il est capable. En fait, il est imprévisible. Il est capable.
Antoine, c'est très bien ton analyse, mais tu t'es toujours pas positionné.
Non, alors je comprends.
Priorité à droite.
Antoine.
Samuel m'a rappelé qu'évidemment, il peut pas dire feu vert. Les verts, ça passe pas à Lyon. C'est pour ça.
Voilà, donc feu orange. Merci beaucoup.
En plus.
Bon, Antoine, on te souhaite évidemment un beau match. Voilà. C'était ma question. Est-ce que tu seras au stade mercredi?
Ouais, je suis au stade. Et justement, je voulais finir par ça. J'espère que le stade sera plein, honnêtement.
Ah ben bah ça, il sera plein, oui.
Bah, attendons de voir parce que déjà les restrictions, parce qu'en fait, pour avoir accès à la billetterie, donc il y avait la billetterie abonnée dans un premier temps là qui est terminée. Maintenant, il faut la deuxième vague, c'est les gens qui ont un compte en fait sur la billetterie.
Oui, qui ont été le plus présent au stade depuis 3 ans.
Exactement, mais là, par exemple, j'y ai accès. Même si je l'avais eu via un ami abonné, mais bref, on s'en fout. Mais moi, ce qui m'inquiète un petit peu, pour être tout à fait franc, c'est que les places qui restent, elles sont pas données. Et j'ai peur que ça soit un frein. C'est étonnant qu'en fait, il reste des places, je trouve. Quand il y a un événement comme ça, la billetterie ouverte, et là, il reste quand même pas mal de blocs.
Peut-être des retours de vacances. Non, je pense que ouais, ça va se
comprendre. En tout cas, on rappelle qu'il y a déjà 40 000 places qui ont été vendues. Et comme j'ai expliqué juste avant, je sais pas si t'as entendu, mais en fait, Lyon fait très attention à la billetterie pour que, évidemment, il n'y ait pas la problématique de 2017 où il y ait plus de Turcs que de Lyonnais. Donc, en fait, c'est très encadré, mais ils pensent qu'ils seront à un guichet fermé avec des Lyonnais encouragés, avec des supporters lyonnais, etc. On suivra tout ça, évidemment, de près de toute façon. Et je vous invite à aller sur sur rmcsport.fr pour découvrir le papier d'Edouard G qui explique tout ça. En tout cas, régale-toi mercredi prochain.
Merci beaucoup.
Et si vous gagnez, utilise la même porte d'entrée en fait pour, ouais, pour le stade. Pensera à moi.
On fera ça, merci.
T'es vraiment un fondu. Hein. Mais bon, ça se comprend. T'es un sportif dans l'âme. T'aurais rêvé d'être qui? Alain Giresse, Zinedine Zidane, enfin, Christophe Dugarry.
Alain Giresse, je suis pas au bord de la retraite quand même. Tu vois.
Mais non, je prends un
bordelais.
Je prends une icône bordelaise.
Si j'avais non.
Il y en a quand même beaucoup des icônes bordelaises.
Si j'avais
Excusez-moi, j'ai commencé par Alain Giresse. Je pense pas faire un faux pas. Si Marius Trésor, enfin qui vous voulez, je sais pas. J'ai juste dit des bordelais quoi.
Si j'avais pu dire plus récent quoi.
Vous serez.
Bah oui, mais enfin des icônes bordelaises récentes, c'est qui?
Ah, il y en a eu.
Bon, ça dépend. Johan Barbet, Jean Griot. Non, c'est des joueurs qu'on jouait en fait, qu'on a descendu.
Non, mais je peux te dire Cheikh Diabaté si tu veux, mais enfin bon, je pensais plus à des illustres.
Non, et ben non. Alors si le joueur que j'ai le plus admiré esthétiquement, il est pas bordelais, c'est Dennis Bergkamp.
Non mais enfin écoute.
Non mais David.
Comment tu supporters d'Arsenal ou de Bordeaux?
Mais non, si on te fait un Hall of Fame de Bordeaux, c'est quoi?
Oh, Johan Gourcuff en tête, bien évidemment. Okay. Évidemment.
Voilà.
C'est pour moi c'est vraiment pour moi supporter récent.
Non, pas du tout. Pour moi c'est le joueur qui a de ce que j'ai vu et j'ai commencé à suivre les Girondins en 92 et donc c'est le joueur qui a atteint le niveau sportif le plus haut sous le maillot des Girondins. Beaucoup plus que Zidane, par exemple, même. À l'époque.
Non, mais d'accord. Tu prends pas de Champions de France 99, toi, tu prends 2009.
Bah, oui, non, mais c'est celui vraiment qui m'a transporté. En plus, à l'époque, je m'en souviens. Encore, ça va finir. Non, mais ça va finir, ça va être.
2009,
c'est un fréquent star, David Gluzman. Non, mais c'est incroyable.
Non, Balkan.
Non, mais alors, moi, j'habitais à New York à l'époque. Et
oh
je me
là
souviens.
Là.
Oh là là.
Oh le melon.
Mais c'est pas le melon, j'ai le droit d'être expatrié quand même.
Je prenais mon jet privé pour aller.
Non. Et tu regardais les matchs à quelle heure, du coup?
Je m'en regardais les matchs en plein milieu de l'après-midi, le week-end, et je prenais ma pause déjeuner décalée pour la Ligue des Champions, et je me souviens encore de l'émotion que j'avais quand je voyais les arabesques de Johan Gourcuff sur une petite télé dans un bar new-yorkais. Ça restera comme un des plus beaux moments
c'est
de ma
fort,
vie.
C'est fort.
Parce que c'est vrai qu'Antoine Lalion les a moins vus, les arabesques de Gourcuff, hein, par contre.
Bah, on les a vus, on les a éliminés en Ligue des Champions quand il. Je ne dis pas de bêtises.
Oui,
je ne dis pas de bêtises.
Je te parle de Gourcuff version lyonnaise.
Enfin, je dis quel enfer parce qu'en fait, c'était. Il jouait jamais, mais quand il jouait, on voyait tellement qu'il avait un truc en plus, même sur la fin. Honnêtement.
Tu sais quand il jouait dans le losange.
Oh, enfin, c'est un four qui vous a coûté combien? 26 millions, non?
24 à l'époque, c'était une dingue.
Ouais, 24 millions, c'est un four très cher.
Bah déjà en fait tu sais que ça allait pas fonctionner dès la présentation.
Ouais.
Parce que je crois qu'il fait la présentation avec Lloris et Toulalan, dîner chez Bocuse après.
Il est pas là dans sa tête.
Bon en tout cas Antoine, merci pour ce bon moment passé à tes côtés.
Merci à vous, c'était un régal.
Et toi juste dis-nous ton joueur préféré Hall of Fame de tous les temps à Lyon bien sûr. Me sors pas un mec qui joue à Lille parce que là je comprends plus rien. T'es supporter lyonnais, je veux un lyonnais hein.
À Lyon, je vais pas dire Vigneault pour l'évidence, mais justement, il a été cité tout à l'heure, Lisandro Lopez, c'était quelque chose. Hein. Moi,
Licha.
Ouais, j'avais 15 ans, un petit peu moins quand il arrive, et c'est extraordinaire. Le mec à qui on s'attache, c'est quelque chose. Hein. Même j'ai des maillots de lui, c'est le Barça.
Hall of Fame Barça.
Je vais pas demander.
Non mais moi non, c'est bon.
Parce que tu as été.
On a un programme assez chargé.
Voilà, on a un problème très chargé. Non mais il veut présenter l'émission maintenant avec deux semaines, c'est incroyable. Antoine, on t'embrasse. Bon match la semaine prochaine et on te souhaite une belle saison avec Lyon et surtout évidemment une qualification en Ligue des Champions. On espère qu'on aura quatre clubs français en Ligue des Champions. Franchement, ça serait pas mal après le PSG, après Lille, après Lens évidemment. Et Lyon ce week-end commence son championnat face à Toulouse. Ça sera samedi soir à suivre bien évidemment sur RMC. Dans quelques instants, Francaise qui resserre son groupe. On va parler de Rennes, les infos Mercato évidemment. On parlera également du match entre Rennes et Paris. Normalement c'était Paris-Rennes, ça devient Rennes-Paris, mais il y a toujours des mais. Rennes dit bien que ce n'est pas une inversion. Sous-entendu, on veut que lors du match retour, ça soit encore Rennes. En tout cas, eux, ils disent que ce n'est pas une inversion. Donc, on vous expliquera tout ça précisément. Dans quelques instants, évidemment, Génération After continue sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Karine Galli. 20h32 sur RMC, on est ensemble dans Génération After avec David Gluzman, avec Elton Mokolo, qui parfois se fait appeler Elvis, et je trouve que ça lui va pas mal.
En soirée étudiante.
Je trouve que c'est un pseudo qui est pas mal.
Alors c'est ça Karine, c'est ce que tu fais.
Mais quoi?
C'est ça, tu dis.
Je divulgue des secrets.
La délation. On appelle ça de la délation.
Ouais, et c'est totalement mon cas. Je te dénonce, mais parce que je trouve que Elvis, ça fait un petit côté américain, étranger.
Elton, c'est vrai que ça fait italien.
Non, c'est vrai. Mais bon, vu que je le connais, Elton, je suis moins surprise, tu vois. Alors que là, Elvis, ça fait
piège. Ouais.
Voilà. Et une passion Elvis Presley, pas du tout?
Ça aurait pu, ouais.
Mais c'est pas le cas, donc.
Non, c'est pas le cas.
Ok, magnifique. On va parler donc de Francaise, qui resserre le groupe. Vous savez donc que les Rennais ont terminé 5e la saison passée. Ils ont été coiffés au poteau par les Marseillais, se sont complètement écroulés lors de la dernière rencontre. Marseille les avait battus au Vélodrome. Et donc Francaise a un groupe très étoffé. Et toutes les informations, elles sont signées Xavier Grimaud. Il a envie évidemment de resserrer un petit peu son groupe. Alors il y a des joueurs qui étaient absents aujourd'hui à l'entraînement, notamment Mbolo, Cissé et Seydou, pas parce qu'ils sont blessés, mais parce qu'ils s'entraînent à part. Mais, soi-disant, il y a un accord avec le club et on ne parle pas de loft. Bon, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Enfin, c'est quand même un loft déguisé. Et il y a des options, évidemment, de départ. Brel Mbolo, on parle de lui, que ça soit en MLS ou en Première Ligue. MLS, ça serait Atlanta. Pour la Première Ligue, ça serait Ipswich. Pour le joueur Seydou, on parle de quoi? Eh bien, on parle de destination. Elle n'est pas donnée dans le papier, donc j'en sais rien. Du côté de Lilian Brassier, lui aussi, il est mis sur le côté parce que malheureusement, il est relégué dans la hiérarchie avec évidemment l'arrivée de Cresswell. On va en parler quand même de Lilian Brassier parce que c'est un crash monumental. Est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu trop dur avec lui? Parce que finalement, à Marseille, il a eu très peu de temps et puis il est retourné à Rennes. Et là, c'est un joueur, on avait beaucoup d'espoir au niveau de la défense. Et là, aujourd'hui, c'est un joueur qui est indésirable.
Je suis d'accord
et qui
avec toi,
partir.
C'est pas le premier, c'est pas le dernier qui a pas réussi justement à passer ce cap de bon espoir de Ligue 1, un très bon joueur de ce championnat, entre l'Olympique de Marseille, peut-être que c'était sûrement trop haut même, et Rennes aujourd'hui, donc il revient à une réalité d'un joueur qui est sur la rampe, sur la porte de sortie.
Alors il y avait des absents également, pas parce qu'ils étaient dans l'off, mais parce qu'ils étaient ménagés ou légèrement blessés, mais le club, a priori, ne compte pas forcément sur Ludovic Blas. Pourquoi? Parce qu'il a qu'un an de contrat et le club breton ne veut pas le voir partir libre ni le prolonger, donc transfert. Et du côté de Seko Fofana, vous savez très bien que c'est un très gros salaire, qu'il avait été déjà prêté l'an dernier au Portugal et que le club ne compte pas forcément sur lui. C'est une bonne chose que Francaise resserre le groupe?
Ah oui, c'est une bonne chose parce que aujourd'hui, il y a deux impératifs. Il y a un impératif en termes d'effectifs, parce que avant Francaise, il y a eu un effectif construit pour Julien Stéphan, un effectif construit pour Jorge Sampaoli, un effectif construit pour Abby Bay. Donc, il y a eu énormément d'arrivées. Et donc, il y a eu un effectif plutôt pléthorique. Et il y a également un impératif économique pour se mettre en conformité par rapport au fair play financier de l'UEFA. C'est un objectif du côté du Stade Rennais sur la fin du mercato. Et aujourd'hui, t'es obligé de dire aux joueurs qui vont pas être dans la dynamique de l'équipe première que, messieurs, va falloir se décider dans les prochains jours et trouver des destinations pour pouvoir évoluer sous d'autres couleurs.
David, il faut aussi quand même que Rennes retrouve un petit peu des couleurs, parce que l'an dernier, tout le monde était plutôt heureux côté supporter qu'Abby Bay s'en aille et que Francaise revienne un petit peu à la maison. Il a terminé cinquième, ça n'a rien d'exceptionnel, et Elton en a parlé, ça fait plusieurs fois qu'il y a des échecs avec des entraîneurs où ça ne matchait pas du tout. La Francaise, a priori, il a le bon profil, mais il faut à nouveau redevenir un club ambitieux alors qu'ils ont dépensé énormément d'argent.
Oui, ils dépensent de toute façon énormément d'argent depuis plusieurs mercati, mais on l'avait déjà dit cet été avec Elton. Moi, je suis ravi que nous ayons de réelles exigences avec le Stade Rennais cette saison. Le Stade Rennais a tous les outils pour performer très très haut dans le championnat. Le Stade Rennais a des atouts que pas mal de clubs n'ont pas, dont un action très responsable et très généreux qui aide à corriger les erreurs, même quand les erreurs sont très importantes. On se rappelle de l'été catastrophique de Massara à l'époque. Donc oui, et encore cet été, Rennes a pris des risques, a recruté, contrairement à énormément de clubs, sans s'être séparé de joueurs.
C'est vrai ça, ouais.
Qu'ils voulaient sortir. Faire Cresswell, quand t'as encore Brassier, quand t'as encore Rouault, des joueurs qui ont eu un certain coût, c'est un vrai luxe de faire Cresswell à ce prix-là. Et un vrai risque aussi, parce que Cresswell, dans une défense à 4, on n'a pas énormément de références. Donc faire Mayenda alors que tu n'as pas encore sorti Mbolo, encore une fois, c'est un vrai luxe. Donc oui, ça va être de toute façon la saison de vérité. Et je me souviens qu'on a eu cette discussion avec Walid, où Walid disait que le Stade Rennais avait de la chance d'avoir Francaise. Moi, je suis pas certain que c'est pas plutôt Francaise qui a de la chance en fait d'avoir
être en
d'avoir
contradiction avec Walid Acharchour. En général, c'est gage de bonne santé.
Non. Écoute, on va pas le. Moi, je ne cherche pas les absents. Non, mais vraiment, et je pense que Francaise a tous les atouts à sa disposition. Et cette saison, l'objectif, ça doit être le top 4 pour Rennes.
Top 4, donc une place de mieux, c'est pas non plus bouleversant.
Donc la Ligue des Champions.
Donc la Ligue des Champions, tout donc simplement. La Ligue des Champions, la seule.
Les barrages.
Au moins, à minima, les barrages. Et on rappelle que la seule fois ils sont qualifiés en Ligue des Champions, c'était en période Covid, ce qui ne enlève rien à leur performance. Mais à mon sens, et je le répète, c'est parfaitement anormal que une équipe comme Brest ait fait mieux, que Lens ait fait deux fois mieux parce qu'ils sont qualifiés deux fois pour la Ligue des Champions, que Lille se qualifie pour une troisième fois pour la Ligue des Champions. Rennes doit boxer dans cette catégorie et Rennes doit s'affirmer sur la durée comme le troisième, quatrième club français parce qu'il en a tous les atouts, notamment les faiblesses momentanées de la concurrence.
Evan, supporter rennais avec nous au 32-16 sur RMC. Bonsoir Evan.
Bonsoir Karine, bonsoir à tous.
Bonsoir Evan.
Evan, Francaise qui fait un loft, mais il ne faut pas dire ce mot.
Bah non, effectivement. Enfin, on a l'impression que dans ce club, on veut pas vraiment dire les choses comme telles qu'elles sont. Quoi. On a un peu peur. Faut y aller. On est le Stade Rennais, comme disait David. Enfin, cette année, on doit pas se cacher. Quoi. Quand on voit les problèmes, les faiblesses, les problèmes financiers qu'il y a en Ligue 1, aujourd'hui, on doit pas se cacher. On est top 4 minimum.
Merci, top 4 Evan. Minimum.
Voilà. Donc, si clairement, cette année, on fait pas top 4, c'est un échec monumental.
Avec, encore, un échec qu'on a monumental, j'irai pas jusque-là quand même.
C'est un gros échec
monumental. Faut
qui tu vois mieux préparé? Vraiment, qui te donne plus de garanties?
On parle d'un club, on l'a bien dit, il y a une place en Ligue des Champions en 2020 qui tient un pangolin. C'était par rapport au Covid.
Sauf que la réalité, c'est qu'après des années d'erreurs, il y a un moment où Rennes doit se remettre sur les rails.
Là, en fait, on est dans le carré VIP de la Ligue 1. Dans le carré VIP, on parle d'un club qui n'est jamais invité, en fait.
Début de la Ligue 1. Qui tu vois mieux préparé? Hors PSG. Qui vraiment tu vois mieux préparé? Parce que là, t'as l'air de te surprendre, en fait, qu'on exige un top 4. Mieux préparé?
On marche main dans la main pour le Stade Rennais. Mais là, de parler d'objectifs, enfin, de rater monumental, d'échec monumental, alors que c'est un club qui structurellement n'est pas top 3, n'est pas top 4 de Ligue 1. Elle est là, la réalité.
On a quand même un stade, on a quand même un centre de formation, on a quand même un actionnaire qui est très fort derrière
ça,
nous.
Oui.
Pardon Elton, mais on a tout ce qu'il faut pour performer en Ligue 1 dans le top 4, au moins top 4.
T'as tout ce qu'il faut pour performer. Pour performer, mais tu l'as pas fait encore. T'es sur un territoire.
Tu dois le faire.
Evan, s'il vous plaît.
Ouais. Non, mais voilà, c'est ça, on doit le faire cette année. Quand on voit Marseille, on voit Lyon, ils ont des problèmes budgétaires. Lille, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a Lens. Si Lens finit, comme disait encore devant nous cette année, je suis désolé, c'est un échec. La Lens, ça travaille beaucoup mieux que notre club. Je suis désolé, c'est un camouflet monumental pour nous. Et on recrute tous les jeunes anciens de Lens en plus. Donc,
c'est pas gratuit.
C'est un peu la honte. C'est un peu la honte.
Mais moi ce qui me dérange, outre l'aspect, alors ils ont là je pense qu'ils sont mis à l'écart, mais ils ont accès aux mêmes installations, avec le même, je pense que juridiquement tout est fait dans les règles, avec le nombre de
préparateurs. Il y a un entraînement individualisé, voilà. Un commun accord, dit-on, au club.
Ce qui me dérange, c'est que tu détruis de la valeur. C'est-à-dire que en les mettant de côté, forcément, tu vas pas susciter énormément d'intérêt, ou alors tu vas susciter des offres à la casse.
Mais de toute façon, David, tu sais que c'est un passage obligé à partir du moment où il y a eu des ratés.
Après, Mbolo, c'est différent parce que Mbolo, Ipswich et Atlanta.
Oui, Mbolo, il va partir.
Voilà. Mais je pense qu'ils auront tous, en fait, ils ont tous un marché, ces joueurs-là. Djaoui Cissé. S'il n'y a pas 5-6 clubs prêts à relancer Djaoui Cissé avec ce qu'il a montré quand il a explosé sous Habib Bey, je serais ultra surpris.
De l'équipe de France Espoir. Donc,
il a marqué plusieurs fois en équipe de France Espoir, notamment avec des frappes
c'était l'une des révélations, probablement qu'il a un vrai bon marché.
Après, moi, sur Lilian Brassier, en fait, on avait ouvert avec Lilian Brassier. Je trouve ça un peu dur, en fait, pour lui. Et limite, un peu, peut-être pas inconséquent, mais un peu imprudent du Stade Rennais, même si tu as très justement rappelé qu'ils avaient une masse salariale relativement élevée qu'ils sont en train de réduire, mais ils doivent se conformer au squad cost ratio de l'UEFA. Mais t'es pas non.
C'est, oui, ça se prononce comme ça.
Ouais,
oui, ah, mais tu m'impressionnes.
J'ai habité à New York, comme on le t'avait dit, il y a 20 minutes, donc j'ai, oui. J'ai un accent plus ou moins potable. Donc
ah,
voilà.
Ah, mais non, you are totally bilingue.
Mais moi, moi, j'ai essayé de dire la même pour l'Olympique de Marseille, c'était pas la même.
Oui, mais j'ai pas bien compris, tu vois. Quand
t'es pas à l'abri que Cresswell ne performe pas forcément dans une défense à 4, qu'Aïd Boudal parte, parce que t'es pas à l'abri d'une offre délirante de première ligue, on sait que Fulham le suit. T'es pas du tout à l'abri, en fait. Il veut pas signer de nouveaux contrats. Il a 2 ans, je crois. Mais il veut pas signer de nouveaux contrats. T'es pas à l'abri d'une tuile à ce poste. Et Brassier, je trouve que. Il a pas sous le maillot Rennais, il n'a pas forcément démérité.
Je suis d'accord.
Evan, donc toi, tu nous as dit top 4. Est-ce que en Ligue Europa, tu espères quelques petits frissons? On rappelle que quand même, par le passé, vous aviez eu une campagne aussi intéressante européenne avec des frissons, avec un Roazhon Park qui est magnifique.
Contre Arsenal, contre Milan, c'est des vraies rencontres européennes.
Ouais, t'en as même eu deux des campagnes qui ont été intéressantes.
Ouais, tout à fait. On espère évidemment. Maintenant, ce qui fait un peu peur, c'est quand on voit la campagne qu'a faite Francaise l'année dernière avec Nice. Ça, c'est le gros doute qu'on a avec ce coach.
Ouais, c'est des considérations, c'est un contexte qui est totalement différent. Parce que là, c'est
oui, enfin, je te rappelle que quand même, et Evan en a parlé, que ça soit avec Lens ou avec Nice, les états de service de Francaise en Europe, ils sont pas.
Lens en phase de poule de Ligue des Champions, t'es un peu dur. Parce que Arsenal, Séville, c'était quand même des matchs corrects. Non, c'était quand même des matchs corrects.
Oui, et derrière, après, ça n'a pas été terrible.
Non, derrière c'est vrai que ça a pas, disons qu'il y a pas, il y a eu des très bons matchs, il y a pas eu de d'épopée mémorable.
Non mais là David, t'as fait du name dropping. Lens, Nice, c'est pas des équipes qui ont vocation à faire quelque chose d'important en Europe.
Ah, mais enfin, bah, les adversaires de Nice, on a fait tous les matchs sur RMC. C'était incroyable, avec Maxime Tillet on comptait le nombre de matchs sans victoire en Europe de Nice.
Ça oui, mais Nice c'était un contexte où en fait c'était on arrivait sur une fin d'aventure avec une équipe qui ne croyait pas en elle-même et qui était dépassée.
Et surtout, t'as perdu tes premiers matchs, donc après forcément. Oh, non, mais là-dessus je suis d'accord. Mais il y a une différence entre l'épopée et la bouillie qu'il a quand même que son Nice a offert en Coupe d'Europe.
Donc Evan, toi, c'est sortir de la phase de groupe.
Oui, sortir de la phase du groupe et pourquoi pas aller même un peu plus loin, voir quart, ce serait déjà bien, je trouve, pour un club comme Rennes.
Complètement d'accord.
Mais sincèrement, avec tout le respect qu'on doit avoir pour Fribourg qui fait finale l'année dernière, je pense pas qu'un Rennes y ait 2-3 classes d'écart entre les deux formations, entre les deux équipes.
Elton, on se voit toujours trop beau. La dernière fois que Fribourg a joué un club français, il y avait eu Lens. Qu'est-ce qui s'est passé? Lens, merci, au revoir. Et quand Fribourg l'an dernier a été en Coupe d'Europe, ils ont fait mal aussi.
Sans parler de Fribourg, n'allez pas m'expliquer que Braga, qui fait demi-finale d'Europa League, met une danse en valeur absolue au Stade Rennais.
Non mais attendez, on doit avoir énormément d'exigences aussi.
Je te dis pas qu'ils doivent être à Francfort.
Mais Elton, je suis allé plus loin que toi. J'étais avec Kevin et Max Chano et j'ai dit qu'à l'avenir, si Rennes jouait régulièrement l'Europa League et l'Europa Conference League, ils ne peuvent s'interdire de rêver. Moi, l'Europa, si un jour Rennes, dans la structure financière actuelle, joue l'Europa Conference League, mais je vous la gagne. Ils jouent clairement la gagne et c'est pas par rapport à Vallecano, ils ont quoi en fait de moins?
Mais en fait la réalité c'est qu'on joue toujours la gagne mais on la gagne jamais.
Mais c'est le problème. Mais ça c'est le problème. Mais ils ont l'effectif, ils ont les ressources financières, ils ont la qualité d'encadrement avec Francaise pour aller jouer la gagne. Je suis désolé. Et Elton, tu connais très bien le championnat espagnol.
Ça peut m'arriver.
Non mais le Betis par exemple,
c'est une quart de finale l'année dernière.
C'est une très bonne équipe, mais Rennes-Bétis, en fait, si tu veux, c'est des effectifs relativement similaires. Il y a peut-être un peu plus de qualité sur certains titulaires du Bétis, là je te l'accorde, mais au point de vue densité, je pense que Rennes n'a rien envie de Bétis.
Il y a le papier, il y a la réalité. Mais Strasbourg a privilégié la Ligue Europa Conférence et c'était un choix par rapport à la Ligue 1. Ça s'arrête en demi-finale et ils ont été éliminés. Logiquement, les Lyonnais face au Celta Vigo, ils sont favoris. Ligue Europa, ils sont éliminés. Logiquement, c'est ça la réalité.
Mais ils
avaient
moins de densité, ce que je veux te dire, en fait. Tu veux, c'est que Rennes, avec la densité d'effectifs, avec la qualité qu'il y a, j'attends qu'elle soit traduite sur le terrain, même si c'était pas le cas, en fait, si tu veux, dans le passé. Le passé, pour moi, c'est une anomalie.
Non, mais là, je te parle pas de l'an passé.
Mais l'an passé, Lyon avait quand même un effectif relativement mince en quantité. Donc, jouer sur les
deux.
Donc,
face au Celta Vigo, finalement, c'était totalement logique.
Non, je te dis pas que c'était logique. Mais le fait est que c'est pas l'année dernière. Autant que tu me dises, quand ils perdent contre l'Ajax qu'ils perdent en demi lors de la longue épopée en Europa League.
Bon. Il y a eu Manchester United aussi.
Non, mais oui, mais même avant, quoi, avec la Cazette, avec, je crois que c'est contre.
Oui, c'est la, 2017, c'est Amsterdam.
C'est l'Ajax, c'est ça. Oui. Autant là, ils avaient l'effectif pour clairement aller la chercher, mais l'année dernière, tout le monde se disait, au début de la saison, s'ils arrivent à être compétitifs en Europe et en Ligue 1, c'est un miracle.
Oui, mais David, le problème, c'est qu'ils sortent premier de la phase de groupe, donc ils sont impressionnants, et derrière, Celta Vigo, et tu es quand même plutôt serein parce que le Celta Vigo, c'est pas un monstre européen et parce que Lyon a été bon en Europe.
Je suis d'accord.
Et ça s'arrête là. Et Strasbourg, face au Rayo Vallecano, ils avaient mis toutes leurs forces dans la Coupe d'Europe.
Il y a eu des blessures, il y a Barco qui n'était pas fort.
Ivan l'a dit au tout début de son passage, la principale bascule à faire du côté du Stade Rennais, c'est la mentalité, se permettre des choses. Parce que le problème de Rennes, c'est que c'est un club trop poli qui demande la permission.
Non, mais même Ivan, la dernière journée, Marseille-Rennes.
Exactement, c'est mon exemple. Ouais, c'est mon exemple. T'as ton destin en main. T'as
et
la Ligue
des Champions. Tu te fais rouler dessus par une équipe qui est en crise absolue.
Exactement.
Bah oui, en vrai, on a un peu un club. Alors, c'est triste à dire, mais on est un peu un club de losers. Quoi. C'est pour ça. Cette année, il faut que ça change, il faut que ça bascule. C'est l'année ou jamais. C'est l'année ou jamais.
Et on te souhaite en tout cas une belle saison.
On le souhaite. Et moi, j'attends beaucoup plus de Franquet. Je trouve que les résultats ont été assez flatteurs par rapport au contenu l'année dernière. Donc j'en attends beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Et tu attends donc une finale au moins.
Non, mais dans le futur.
David, il a dit Francfort 2027.
Non, j'ai pas dit ça. Mais j'attends qu'il figure bien et j'attends qu'il respecte la qualité et les investissements de l'actionnaire. Voilà.
Et on te souhaite en tout cas, Evan, une très belle saison.
Merci,
alors,
Evan.
Vu que le match aura lieu à Rennes, est-ce que tu seras présent dimanche au Razon Park?
Bah non, là, j'ai été pris un peu de cours. Voilà, mais en tout cas, je serai derrière mon écran, évidemment.
Merci beaucoup, Evan. Et justement, merci, on va en parler parce que l'exemple d'Evan, il est parlant. Évidemment, les gens, ils sont pris de court. On est mardi, le match finalement a lieu au Razon Park et on va tout vous expliquer parce que du côté de Rennes, on veut bien préciser que pour eux, ce n'est pas une inversion du match. Parce qu'inversion du match voudrait dire que le match retour, ça serait au Parc des Princes. Et en tout cas, les Rennais, ils ne l'entendent pas ainsi. En tout cas, on va tout vous récapituler. En tout cas, supporters Rennais, si dimanche soir, vous deviez être devant votre télé et que vous avez la possibilité d'aller au stade, sachez que le match entre Rennes et Paris se jouera au Razon Park. Pourquoi ? Parce que à cause de la canicule, la pelouse est dans un état déplorable. Il y a des champignons. Vous aurez toutes les explications dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
On est ensemble jusqu'à 22h sur RMC. Juste après, il y aura évidemment l'After Foot avec Gilbert Bribois. On est avec Elton Mokolo, avec David Glusman, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424 et également au 32-16. Cassielé, je ne sais pas comment on prononce, nous dit: vous êtes amnésique, tout le monde annonçait la qualif de l'OL face au Celta Vigo. Ben non, on n'est pas amnésique justement, Cassielé. On en a parlé et ouais, l'OL a été battu sur les deux matchs. Alors, évidemment, David était très confiant pour Lyon la saison passée parce qu'il croit au club français, mais la réalité du terrain nous a
non, j'étais surpris en fait de leur parcours. Moi, j'attendais rien de Lyon l'année dernière.
Eh ben, en tout cas, ils avaient été très bons sur la phase de groupe premier et malheureusement, ça s'était arrêté juste après face au Celta Vigo. Messieurs, la Ligue 1 reprend vendredi, vous le savez, avec Marseille-Strasbourg. Eh ben, potentiellement, il y a déjà une polémique. Première journée, première polémique. Normalement, dimanche soir, tranquillement, il devait y avoir un petit PSG-Rennes, le match gala hein, de Ligue 1 Plus. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? En fait, le match ne peut pas avoir lieu au Parc des Princes parce qu'il y a des champignons. La pelouse est dans un état déplorable à cause de la canicule. Donc, le match va se jouer à Rennes. Mais, on va tout vous expliquer, ce sont des informations de Xavier Grimaud. Donc, Paris a d'abord constaté le mauvais état de la pelouse, en a informé la Ligue, et derrière, il fallait évidemment trouver un stade de repli. Il y a différentes options qui ont été étudiées. Le Stade de France, pris par un concert, Jean Bouin, sans suite, ça n'a rien donné. Donc, le PSG a alors demandé à Rennes s'il pouvait organiser le match. Les discussions ont débuté seulement hier. Rennes a dit oui, car l'autre solution, c'était un report du match. Mais Rennes ne voulait pas que le match soit reporté, parce qu'évidemment, ils ont un calendrier chargé avec la Coupe d'Europe, et parce que l'équipe était évidemment préparée pour ce match. Mais, au niveau du club, on met sur la table la grosse organisation que cela implique, le manque à gagner potentiellement, la billetterie, les ventes d'espace, les VIP, les abonnés qui ne pourront pas forcément venir. On a entendu il y a quelques secondes Evan, lui, il est supporter rennais, mais malheureusement, c'est trop
tard. Et si je ne dis pas de bêtises, il y avait une fermeture partielle prévue pour le match du Mans, enfin pour le premier match à domicile, si je ne dis pas de bêtises.
Écoute, ça c'est possible, on va vérifier. Mais maintenant, en fait,
j'ai regardé un peu.
Rennes, alors tu le sais. Okay. Rennes insiste bien sur le fait que ce n'est pas une inversion du match aller et retour, mais un repli pour l'aller, et estime que selon les textes de la LFP, le match au retour devrait se jouer à Rennes comme initialement prévu. Sauf que, vous savez, nous on est journalistes, on reçoit évidemment des mails officiels de la Ligue, et quand on reçoit le mail officiel de la Ligue, le communiqué de presse qui est tombé à 19h45, j'ai un PSG-Rennes inversé. Le terme inversé est évidemment écrit de partout. On a même reçu des mails pour s'accréditer en urgence pour ce match qui est inversé. Messieurs, est-ce que Rennes a totalement raison? Parce que c'est Paris qui est en faute, c'est leur jardinier en l'occurrence.
Enfin, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça parce que en fait, t'es rattrapé par la loi de la nature. Parce que d'après ce que j'ai compris, t'as le PSG qui installe sa nouvelle pelouse et donc il a fallu scalper, c'est le terme jardinier qui est scalper l'ancienne pelouse et avant d'introduire la nouvelle pelouse.
Ça s'est regardé silence, ça pousse chez
Et entre temps, bah t'as les canicules qui sont arrivées et donc avec tout ce que ça peut engendrer, la dégradation de la pelouse et donc forcément le PSG est pieds et poings liés. Donc c'est beaucoup plus une question naturelle qu'une question d'entretien qui fait que le PSG est pris au piège et donc d'où cette question du report.
Après, attends, la canicule, elle a touché toute la France.
Mais surtout,
on a eu la Ligue 2.
Des conditions d'accueil en fait de l'adversaire.
Ça oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, canicule. Si la canicule elle t'impacte, tu vois, c'est comme notamment.
Enfin, la canicule a impacté tout le monde. Elle donne pas juste le Stade de Rome. Il n'y a pas eu un microclimat juste le Parc des Princes.
Non, mais ce que je veux dire par là, pour caricaturer, c'est pas comme si le PSG avait sciemment entre guillemets savaté le Parc des Princes.
Ouais. On dit pas ça, mais sauf que comme l'explique David, le PSG doit accueillir une équipe et en l'occurrence là, ils ne peuvent pas l'accueillir. Les Rennais, ils acceptent que le match se joue c'est chez eux, mais effectivement,
le
eux
PSG
aussi.
Le PSG pour moi est responsable, mais coupable, j'irai pas jusqu'à dire ça.
Ah, responsable, mais pas coupable comme dans le sketch des inconnus.
Exactement, ouais. Exactement, c'est ça.
En tout cas, on va accueillir Mickaël, supporter parisien, qui est colère au 32-16 sur RMC. Bonsoir, Mickaël.
Bonsoir.
Salut Mickaël.
Bonsoir Mickaël.
Alors Mickaël, on rappelle que quand même, vous êtes censé en plus avoir le meilleur jardinier, le fameux Calderwood. Il est arrivé en 2013, mais c'est vrai que juste avant l'émission, quand l'info est tombée, on a été très surpris avec Elton parce que il y a un championnat des tribunes, des pelouses, des tribunes aussi, mais des pelouses. Et l'an dernier, eh bien, c'est Nice qui a été sacré meilleure pelouse de Ligue 1. Non mais c'est complètement dingue quand tu vois le podium. Donc Nice en 1.
Lorient 2.
Non, Metz. En 2, Nantes en 3. Donc, pour voir du beau football, a priori.
Après, Metz, le ballon touche pas souvent terre. Donc, en fait, la pelouse n'est pas.
C'est une énorme
pas tellement utilisée.
On rappelle quand même que Nice est sauvé grâce au barrage. Metz et Nantes ont filé en Ligue 2. Et Paris n'est que quatrième.
La morale de l'histoire n'est pas une bonne pelouse.
Ouais, franchement, là, quand tu vois le championnat des pelouses, tu comprends pas.
C'est ça.
En plus, en Ligue 2, c'est pareil. Hein. T'as Nancy qui a été sacrée meilleure pelouse de Ligue 2. Ils étaient à deux doigts de finir en national. C'est une énorme surprise. Mickaël, qu'est-ce qu'il fait, là, Calderwood, là-haut?
Non, mais voilà, déjà, rebonsoir à tous. Hein. Non, mais déjà, faut reprendre le problème. C'est bien, hein, le podium des pelouses l'année dernière. Ça veut dire qu'on a des bons jardiniers en France et qu'on a des jolis stades et des belles pelouses.
On a un savoir-faire français, oui.
Exactement, voilà. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est que voilà, ça recommence. LFP Circus, on commence par le trophée des champions sur un terrain qui n'est pas neutre, même si je sois supporter parisien ou autre, hein, ça aurait été la même chose. Si c'était
après, ça a été un tirage au sort, mais effectivement, on peut regretter l'organisation.
Je pense qu'à d'autres stades, par exemple, le Razon, qui aurait pu accueillir la finale, par exemple. Puisque leur pelouse est en bon état pour jouer dimanche soir. Non, mais voilà, ça recommence, LFP Circus, on commence par le trophée des champions, là on est à quelques jours de l'affiche du championnat, un dimanche soir à 20h45 sur le diffuseur Ligue 1 Plus, on annonce que voilà, il y a inversion, il n'y a pas inversion. Moi j'ai vu le communiqué du PSG qui disent que c'est en accord avec Rennes et la LFP. On connaît pas non plus ce que la LFP a dit à Paris si les deux matchs auront lieu à Rennes.
Mais donc, toi, t'aurais voulu faire quoi alors, Mickaël? Parce que t'as l'air énervé. Mais toi, qu'est-ce que t'aurais préconisé? Qu'est-ce qui semblé juste?
Déjà, j'ai pas vu la pelouse du Parc des Princes. Qu'elle soit aussi mauvaise que d'autres pelouses, avec l'état de canicule qu'il y a eu, je suis pas sûr. Je pense que aujourd'hui, comme c'est un prime time à 20h45, faut que ça soit bien vert. Et que peut-être que ça gênait plusieurs personnes. Moi, je pense qu'à un autre moment de l'année, ou si c'était un match du samedi après-midi, il aurait été reporté, tout simplement. Voilà, je pense que si c'était une affiche lambda, elle aurait été reportée. On n'aurait pas demandé l'avis de Pierre-Paul Jacques, on aurait reporté l'affiche.
Oui, mais Mickaël, tu comprends bien, et je l'ai expliqué en préambule, que le match phare, le match de gala du week-end pour l'ouverture du championnat, c'est PSG Rennes à la base. C'est l'affiche Ligue 1 Plus qui a été choisie. Pourquoi? Bah, tout simplement, tu le sais. Ah bah ton club est le plus populaire. Vous êtes champion de France, double champion d'Europe. Donc, déjà, le premier week-end, c'est patatras. C'est-à-dire que tout ton cérémonial que tu vas faire avec le lancement des nouveaux consultants, nanani, nanana, tu peux pas le jeter à la poubelle, en fait.
Mais je sais bien, mais c'est que ça commence déjà. Ils pouvaient pas, enfin, le changement de la pelouse et de savoir qu'aujourd'hui, ça, enfin, Calderwood.
Et donc, c'est la faute du PSG.
Alors, c'est de la faute du PSG, mais c'est également la faute de la Ligue.
Mais de la
c'est
faute de la Ligue, pourquoi auraient... Ils sont pas jardiniers, la Ligue.
Ils auraient pu prévoir avant, pas quelques jours. Vous en faites quoi?
Bon,
vous
mais savez, la Ligue moi, a été informée dire... hier par le PSG.
Hier, mais ils doivent bien se renseigner, ils doivent bien savoir quand même l'état.
Mais ils vont faire quoi? Ils vont faire voler un drone au-dessus du Parc des Princes.
La Ligue fait pas la tournée des pelouses.
Ils vont pas prendre la Ligue 9 pour aller inspecter.
Attendez, on écoute Mickaël, on a mal compris, alors peut-être.
Moi, je suis dans un département plus lointain que la région parisienne, beaucoup plus lointain. Aujourd'hui, on a failli y aller. Hein. Franchement, on s'est renseigné pour aller voir l'ouverture du championnat au Parc des Princes en famille. Est-ce que vous vous rendez compte, en fait, de l'organisation pour des familles? Aujourd'hui, ils ne sont pas tous riches, les gens qui vont voir le PSG. Voilà. Et aujourd'hui, l'organisation, il y a des gamins, on leur a dit en début de semaine, lundi, mon chéri, on va voir le PSG ce week-end. Eh ben non, on n'ira pas le voir. Voilà.
Mais Mickaël, on est totalement d'accord avec toi. Mais c'est la faute du club.
Mais c'est le club qui doit rembourser les gens qui ont acheté un billet.
Ah, mais je suis entièrement d'accord. Mais derrière, il y a aussi toutes les communications. Est-ce que le match va avoir lieu deux fois à Rennes? Est-ce qu'il sera inversé comme la Ligue a mis le terme inversion? J'ai entendu Karine tout à l'heure.
Oui.
En fait, on ne sait pas. Aujourd'hui, Rennes va communiquer parce qu'ils vont essayer de défendre leur bout de gras. Ils ont totalement raison, puisqu'on leur demande à la dernière minute d'organiser le match. Tant mieux pour Rennes. Si c'est le cas, ils feront deux guichets fermés parce que Paris Saint-Germain, ça va rapporter
ils en font pas mal. De toute façon, mais ouais.
Oui, ouais, non, mais totalement. Mais voilà, ça, c'est quand même, le prix des places est peut-être pas le même, je sais pas. Mais aujourd'hui, les autres clubs du championnat, qu'est-ce qu'ils vont dire?
À Rennes. Oui, t'as une rupture d'égalité voilà, parce exactement. Que Rennes aura joué demain, un match en plus à domicile. Là où je te rejoins, Mickaël, c'est que ce qui me dérange, c'est que le feuilleton de la Ligue 1 n'a même pas deux épisodes et qu'on a déjà deux polémiques.
N'est déjà pas en fait professionnel, non, mais amateur.
Non, mais attends, on a quand même. La première polémique sur donc que le match soit joué à Bollard, à la rigueur, pourquoi pas, mais sans parquage visiteur, avec un président de la LFP qui n'est pas présent à la deuxième compétition plus importante qu'il organise, qui est quand même le Trophée des Champions, qui est une émanation pure de la Ligue.
Par contre, il était à Salzbourg. Hein.
Ah, par contre, ah, oui, ça, il était.
Il veut bien faire le déplacement.
Il était à Salzbourg.
Il préfère faire les communiqués.
Après, j'ai pas vu ses demandes de RTT, donc peut-être qu'il les a mis dans les systèmes. on sait pas. Mais le fait est que ensuite, première journée de championnat. Alors, t'as failli avoir une polémique avec Lyon, qui avait demandé un report de son match à Toulouse entre les deux matchs de Coupe d'Europe, et que maintenant, t'as failli avoir l'affiche qui est reportée, et tu vas encore avoir des jours de négociations, de palabres, avec toujours les mêmes théories. Le PSG ennuie la Ligue, le PSG est avantagé. Et du côté PSG, en train de nous dire, ah bah c'est la fronde la jalousie anti-parisienne. On n'a même pas deux épisodes de Ligue 1 que déjà les mêmes ritournelles, les mêmes vont revenir. Et franchement,
aujourd'hui, David, pour
souffler.
Attendez, Mickaël, on écoute Mickaël.
Il faudrait, parce qu'aujourd'hui, en plus, je pense que beaucoup de personnes vous écoutent. Aujourd'hui,
des millions.
À partir
des
du
milliards.
Moment que Rennes, voilà, mais exactement. Et moi, je vous écoute aussi bien le matin les grandes gueules que le soir à la débauche de Top Sport. Mais il est important aujourd'hui que la LFP. Après le communiqué de Rennes qui dit que ce n'est pas une inversion.
Alors, pour l'instant, il n'y a pas de communiqué, ce sont des informations que vous pouvez retrouver sur rmcsport.fr. Il n'y a pas de communiqué de Rennes disant.
Oui, effectivement, je l'ai tout lu. Il y a quand même le communiqué du PSG qui dit que c'est en accord avec la LFP et Rennes. Donc il faut savoir rapidement qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que effectivement ça sera deux matchs à Rennes ? Est-ce que ça sera une inversion et du coup le match retour se jouera au Parc des Princes ? Mais il faut que ça soit clair et qu'il n'y ait pas des réunions qu'on dise comité voilà extraordinaire ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit clair dès le départ, que on sache et que ça porte jurisprudence, parce qu'il y a d'autres clubs où leurs terrains ils seront impraticables aussi à un moment ou un autre dans la saison.
Je suis d'accord, Mickaël. Transparence et pédagogie vont être absolument essentielles pour éviter tout le clubisme exacerbé et les théories du complot. D'accord. Et c'est ce qui manque d'ailleurs souvent. C'est-à-dire que le grand public, même nous, en fait, parfois, on n'est pas forcément tout le temps au fait des règlements. Et une communication claire, en rappelant un point de règlement, je pense, éteindrait toute polémique.
Et aujourd'hui, il y a un enjeu, pour moi, c'est la tenue du championnat 2026-2027 avec l'équité pour les 18 équipes. Et aujourd'hui, moi, j'en appelle au bon sens. Rennes ne peut pas jouer 18 matchs de Ligue 1 à domicile. Le PSG ne peut pas jouer 16 matchs de Ligue 1 à domicile. Elle est là, la réalité. Et ça, il va falloir faire attention à ça. Et moi, j'en appelle au bon sens par rapport à cette
donnée. Parce que tu regardes historiquement, en fait, le nombre de points qui séparent Rennes de son objectif en fin de saison, il est généralement très, très ténu, très limité. Donc, un match de plus domicile, ça peut vraiment avoir un impact.
Parce que là, tu ouvres la boîte de Pandore par rapport aux autres équipes qui vont dire, ouais, mais pourquoi Rennes joue 18 matchs?
Et
là,
exactement.
T'es mal barré.
Et qu'est-ce qui va se passer quand un club aura son rond terrain qui sera jugé pas praticable à quelques jours avant le match?
Ils vont dire en inverse.
Exactement. Donc
surtout, Mickaël, c'est la J1, c'est-à-dire que régulièrement, pendant le championnat, les concurrents de Rennes vont nous rappeler c'est que ça, Rennes ouais. a bénéficié d'un match en plus, et ça va être un des feuilletons de la Ligue 1. Et moi, franchement, j'ai pas envie de ça, je suis pas prêt à ça. Plein de bonnes intentions là, plein de positivisme.
Merci beaucoup, Mickaël, d'avoir été avec nous.
En tout cas, je continue de vous écouter. Passez une bonne soirée à tous.
Bonne soirée également, Mickaël.
Merci beaucoup. Belle soirée à toi. Dans quelques instants, on continue évidemment Génération After. On est ensemble jusqu'à 22h. Après, il y aura l'After Foot. On parlera de Monaco qui va jouer son avenir européen en Conference League. Ça sera demain face à Gornik. On parlera également de la nouvelle génération de 9 et aussi quel promu est le mieux armé cette saison. Et puis, il y aura une libre antenne. Vous nous appelez en fin d'émission pour nous dire vous êtes confiant à l'approche de la reprise de la Ligue 1 ou si justement vous espérez encore certains renforts pour votre club. On est ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.